Bon, voilà, alors je vous explique, il est midi, et le grand plaisir, il est midi pile, hein, et le grand plaisir donc d'un cartoucheur virtuel, c'est-à-dire d'un enchaîneur de pistes, quand c'est installé sous Windows. Voilà, il a à nouveau planté. Non mais je vous jure, c'est indéniable, j'ai essayé de passer une journée de travail sous Windows, j'ai pas pu, on ne peut pas travailler dessus. À la limite, on peut essayer de s'amuser avec l'antivirus. Puisque j'ai découvert que dans un antivirus il y avait un Tetris qui était planqué, donc on se demande à quoi ça sert. Voilà, c'est tout. Du sport, tu peux sortir ta voix de Stinsor, je te prie, puisque du coup on se retrouve à cru et à. Bah oui, bah forcément, c'est... Bon, d'accord. Je le fais moi avec ma voix très fipienne, s'il vous plaît. Je le fais moi, hein, si tu veux.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 26 février 2011. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR, c'est l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le glamour des récompenses, la cérémonie cinématographique que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
Je crois qu'on a oublié le prix qui est en association avec le quotidien Minute.
Ouais, 20 minutes, pas Minute.
Oui, ils Gérard, la font tout le temps cette vanne.
Gérard, de l'acteur qui avant nous faisait bien rire et qui maintenant nous fait bien chier.
Ah ouais, alors on a Gad Elmaleh, Albert Dupontel, Benoît Poulvorde, Edouard Baird et Bernard Campan.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geek. Avec du sport. Ultimatum. Das Creech. Et la participation exceptionnelle de JB.
Heureusement, Maurice Mouse de IT Crew est là. Enfin, il ressemble un peu à Wolverine, il lui manque que les griffons adamantium. Salut Kinou, et qui est là pour essayer de réparer les machines en temps réel. Et cette fois-ci, bonne nouvelle, on n'a plus le... de la dernière fois.
Ouais, c'est vrai.
Bah oui, la table est neuve. On va peut-être enfin expliquer aux Rastafari et autres rappeurs en short. Vous savez, les petits blancs qui croient qu'ils savent rapper, que... Faut pas boire, faut pas fumer ici. Enfin bon, ceci dit, c'est vrai qu'on devait faire un résumé de la cérémonie, au moins celle des Césars et celle des Gérards. Bah, Thomas ne peut pas être là à l'antenne. Il ne peut pas être non plus au téléphone puisqu'il est en train de conduire. Et sécurité routière oblige, il a déjà du mal à expliquer à son gosse que non, il ne peut pas regarder la vache pendant qu'il fait du 130 sur l'autoroute. Donc évidemment, c'est un petit peu, je vais dire, raté. Non, ce sera la semaine prochaine, heureusement. Néanmoins, on signalera que Gainsbourg, vie héroïque, le film donc de Johan Sfar, a eu le César du meilleur premier film, totalement mérité. Et meilleur acteur pour Eric Elmos Nino, qui a une interprétation absolument stupéfiante, justement, du beau Serge. Ça tombe bien, puisque c'est les 20 ans de la disparition du grand prêtre de la chanson française. Il y a aussi les dessinateurs de bandes dessinées qui ont vraiment été à la fête, puisque Sylvain Chaumet a eu un César du film d'animation, c'était une nouveauté pour les Césars cette année, pour L'Illusionniste, d'après un scénario de Jacques Tati. Bon, faut dire aussi qu'avec les triplettes de Belleville, il avait déjà montré ce qu'il valait en animation. Il était très 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 fort. Et rien que pour rire, là encore, il s'agit de dessins animés, puisque c'est le César du meilleur court-métrage qui est allé à Logorama, de François Allot, Hervé de Crécy, tiens, le frère de l'autre, et Ludovic Houplet. Bah, c'est un peu rigolo, parce qu'il y a exactement un an, il avait eu un Oscar.
Thank you.
Heureusement, du sport est fidèle au poste. Et tout à l'heure, eh ben, il va parler d'un chanteur tristement disparu. Il va faire aussi du comics qui déménage et des suites que l'on n'aurait déjà pas dû. C'est à peu près ça. Hein.
Non, 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 quand même pas.
Quand même pas.
Non, non, il y a du bon quand même.
Il y a du bon.
Oh, oui.
Oh bon, 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 d'accord, ok. J'ai vu que sur NT1, ils programment dans la semaine du 13 au 16 mars, mais ils savent pas encore la date. Il y a un bon film. Merde, je viens d'oublier le nom. Voilà, subitement, voilà, dommage. Donc, va falloir que tu surveilles la grille, Dus. Hein, puisque il n'est pas encore annoncé. Normalement, je crois que les chaînes doivent annoncer 3 semaines à l'avance les programmes. Sinon, ils risquent une sanction du CSA. C'est pas le CSA qui l'exige, c'est pour que la presse magazine puisse imprimer et tout.
Ouais, mais c'est également pour éviter justement
les déprogrammations sauvages. Ouais.
Déprogrammations de dernière minute hein, qui permettent de remonter un petit peu la sauce et d'engranger plus de manne publicitaire.
Ouais, c'est pour ça que DirectStar d'ailleurs c'est... Ouais. Aurait dû se faire reprendre les bretelles, mais comme il y a des amis au gouvernement. Enfin, bon. Cela ne nous regarde pas. Et on va commencer de suite les sorties bande dessinée. Ne paniquez pas, hein, si vous entendez un gros, c'est tout simplement Kinou qui s'est relevé un petit peu trop tôt, là, il est sous mes pieds, c'est un peu le bazar, c'est pas radiophonique, mais c'est assez rigolo. Mais néanmoins, on va partir, je vous envoie 25 siècles en arrière avec la série Orion, le 4e tome de cette série initiée par Jacques Martin et dessinée par et scénarisée par Marc Jailloux. Puisque donc Jacques Martin nous a quittés il y a un an à peu près, c'est aux éditions Casterman. Orion est une série relativement à part quand même dans l'immense bibliographie de feu Jacques Martin. Je vous rappelle quand même que c'est le créateur d'Alix, Jacques Lefranc, Guy Lefranc et tout le reste. D'abord, c'est une série relativement tardive, puisqu'il l'a fait un petit peu plus tard, au moment où il s'était brouillé avec Casterman, il était parti chez Dargo, si je me souviens bien. C'est à ce moment-là qu'il a créé une série, et besoin d'une série qui se déroule dans l'Antiquité, puisqu'il ne pouvait pas reprendre Alix. Et donc, il a créé Orion, qui se déroule en Grèce, mais il n'a participé qu'à 4 tomes. Ensuite, et ceci même... ouais, 3 tomes, pardon, excusez-moi. Et ceci même s'il n'est qu'une bande dessinée en costume, c'est-à-dire se déroulant dans un cadre passé, avec parfois en lien des événements historiques, à la différence d'Alix, de Jehan par exemple, qui se déroule au Moyen-Âge, cette série prend de sacrées libertés avec la réalité des événements. En effet, les pas du grec Orion sont guidés par les dieux de l'Olympe. Et il n'est pas rare qu'il croit sur son chemin, et bien souvent d'ailleurs sans s'en douter, des héros et des créatures mythéologiques et autres esprits issus de l'imagination des hommes, en faisant son trekking en Attique, au même titre qu'il croit Socrate dans les rues d'Athènes. Orion, donc, n'est pas un témoin de l'histoire, mais l'habitant d'une Grèce mythologique dont les péripéties en rapport avec différentes guerres entre les cités grecques ne sont que prétexte pour lui faire rencontrer les envoyés des dieux. Procédé déjà utilisé par Homère dans l'Odyssée. Le personnage d'Ulysse a historiquement existé, mais ses aventures ne sont que de plates excuses pour expliquer à sa femme Pénélope pourquoi il a mis 20 ans pour venir d'une expédition punitive à Troie, qui plus est fringuée comme un gueux. Du danger des vins et des spiritueux grecs, n'oubliez pas, il faut boire avec modération. Orion donc est un jeune Athénien à la fin du 5e siècle, avant le prophète monothéiste. La cité est à son fort sur l'expérience démocratique, malgré les incessants complots de la noblesse déchue. Celle-ci va tout faire pour mettre à bas la gestion de Périclès, le premier des Athéniens. Oui, c'est l'équivalent de président de la République. Voilà. Et principalement en s'alliant à la puissante cité de Sparte. Orion, lui, est frappé d'ostracisme pour des raisons politiques. Alors j'explique. Cela veut dire qu'il est en exil forcé hors d'Athènes et qu'on a noté son nom sur un tesson d'amphore, un ostracon, qu'on a stocké avec d'autres ostracons pour se souvenir qu'il est interdit de territoire pour 10 ans. Et oui, la première démocratie du monde avait créé le fichage de ses citoyens afin de réduire leur liberté. On n'a rien inventé avec l'informatique. En tout cas, toi, t'as pas inventé l'eau chaude. Hein. La puissante armée de Sparte tient en siège Athènes et celle-ci doit rapidement trouver une solution pour s'en sortir. Périclès, qui n'est que chef d'État après tout, décide d'envoyer sa femme, Aspasie, sa muse, consulter un oracle aux Nécromanciens, un petit temple obscur au fin fond de la Grèce au sein des terres. Hélas, un serviteur informe le parti de l'ennemi qui bien évidemment compte profiter de la situation. C'est donc pour l'obliger à une stratégie erronée qu'une troupe d'élite de Spartiates, dirigée par le cruel Brasidias, va prendre d'assaut le sanctuaire d'une nécromancien, décapiter puis se déguiser en prêtre, donnant un oracle erroné pour que les Athéniens conduisent une sortie suicidaire par superstition. Ah oui, à la guerre comme à la guerre. Mais ce serait compter sans Orion, venu lui aussi consulter un oracle, qui va reconnaître sous le déguisement Brasidias et donc éventer la supercherie. Reste à traverser à pied une partie des montagnes grecques afin de rallier au plus vite Athènes avant que la tragédie n'ait lieu. Et croyez-moi, il y a plus loin entre le nécromancien que entre le marathon et Athènes. Oui, je le rappelle, ça vient de là le terme marathon. Bande d'incultes! Depuis la disparition du dessinateur Jacques Martin, le pari pour Casterman est de sortir quasiment un album par an de chacune des séries qu'il a créées. Un vrai travail de titan, hein, tant qu'on est dans la mythologie grecque, je peux, puisqu'il faut trouver de bons scénaristes, et Jacques Martin quand même était un sacré conteur, mais aussi un dessin d'une très haute fidélité. La tâche est quasiment aussi difficile que la reprise de Black et Mortimer. Dans l'ensemble, les oracles correspondent à la facture martinienne. Dessins, lignes claires hyper-réalistes, détails didactiques, textes lyriques, voire théâtraux, et enfin intrigues politiques soutenues. Sans compter le second rôle de Sidekick, excusez-moi le mauvais terme anglais, le compagnon qu'Orion va rencontrer dans cet album. Panayiotis, forcément un jeune homme de 14 ans, procédé souvent utilisé par Jacques Martin afin de l'aider le jeune lectoral à s'identifier aux héros de ses séries. On se souvient d'Enac, on se souvient de Jean-Jean. Bref, je suis sûr que vous pensiez à autre chose, bande de pervers. La particularité de la fantasy en fait une série certes à part, mais sans défaut. Il faut reconnaître une chose, c'est que Marc Jailloux a rendu une copie sérieuse, sans aucune bavure, rature ou erreur flagrante. Bref, le genre de bouquin que vous pouvez offrir à un collégien dans l'espoir qu'il prendra le grec en option lande morte. Je suis pas sûr, mais bon. Marc Jailloux donc signe le cinquième tome de la série Orion, les oracles, d'après donc la série de Jacques Martin, et c'est aux éditions Casterman. On va enchaîner sur Une vie chinoise. Je suis en train de rigoler parce que je pense que le grand ancien de la radio qui est derrière moi, il a son petit livre rouge qu'il chérit et tout, qui est son livre saint. Et ben là, il va s'en prendre quelque chose. Ouais, tu pourras aller, ouais. Pascal Autier au scénario, mais surtout c'est Lin Kunwu qui est au dessin et qui raconte sa propre vie dans Une vie chinoise. Le troisième tome, qui est la fin donc de la série, s'appelle Le temps de l'argent. C'est dans la collection Made in Shekana. Et c'est le dernier tome de cette trilogie autobiographique. C'est un élément rare et plutôt improbable, où un dessinateur de presse relativement réputé quand même dans son pays raconte dans cette œuvre exclusivement destinée au public européen la vie de ses parents et sa propre vie, et par là même les mille bouleversements qu'a connu la Grande Chine depuis 1948. Avec un parti pris graphique relativement original, enfin très original d'ailleurs, un noir et blanc à l'encre qui est plutôt... c'est pas caricatural, mais c'est vrai, il faut arriver à s'y jeter. Mais cette histoire demandait au lecteur blanc-bec de s'investir et de comprendre les acteurs de cette vie avant de les juger. Croyez-moi, ça valait le coup quand même justement de rentrer dedans. Dans les deux premiers opus, on faisait connaissance avec le père de Lin Kunwu, commissaire au peuple chargé d'apprendre aux paysans les bienfaits de la révolution. C'est un cadre du parti en pleine ascension, charismatique, qui transmet bien sûr à ses enfants son enthousiasme communicatif. C'est donc avec la joie au cœur et l'ensemble des autres villages qu'ils ont participé au grand bond en avant qui mèneront ce continent à la famine. Puis il y eut la révolution culturelle, où les origines bourgeoises de la famille de Kunwu mèneront son père au discrédit, condamné à se faire rééduquer dans un camp. Lin Kunwu raconte ensuite ses années comme soldat, qui correspondent à la dernière décennie de Mao Zedong, ses errements, je parle de celui du grand timonier, l'incompréhension face à un pouvoir centralisé qui n'arrive plus à donner l'impulsion révolutionnaire, et enfin les incertitudes de la difficile succession du grand timonier. Ce troisième tome s'ouvre à l'aube de l'ère de la prospérité. Les réformateurs prennent le pouvoir avec Deng Xiaoping, chassant les derniers fidèles à l'idée de Mao Zedong, prêt à relancer la Chine dans un chaos. C'est une libéralisation économique, la possibilité de tout un chacun des prolétaires de pouvoir réussir, faire de l'argent et devenir officiellement petit bourgeois certifié communiste en créant son affaire, voire en rachetant des usines. Les années 80, c'est le grand galop pour tous les hommes qui en voulaient pour faire de l'argent. La Chine va passer d'une superpuissance totalement agraire et sous-développée en dragon naissant de l'Asie. Oui, mais voilà, tous les hommes avides de réussite ne réaliseront pas leurs rêves. Certains s'en sortiront très haut la main, et d'autres y croyaient faire une bonne affaire, se feront exploiter et resteront dans l'ombre. La fin des années 80, c'est la lointaine chute de l'Europe de l'Est, puis de l'URSS, mais sans que cela fasse quoi que ce soit à la grande Chine communiste. Mais c'est aussi des événements de la place de Tiananmen en 1990, le printemps de la liberté qui se tiendra sur la plus grande place au monde. Non, pardon, je dis une connerie, c'est en 89 d'ailleurs, Tiananmen, à vérifier. Un étudiant qui arrivera à arrêter les chars de l'armée, cette image absolument symbolique, puis la révolte écrasée et tous les contestataires envoyés dans les centres de rééducation par le travail. Mais la Chine est un très grand pays, et en fait, de ces événements, très peu d'échos arriveront en dehors de la capitale. Car il doit raconter ce qui s'est passé, et surtout, ce qu'il a vécu. Et le dessinateur autobiographe discute donc avec son scénariste, ami qui soit, mais européen. Et en même temps, montrer une certaine critique vis-à-vis de ses concitoyens, qu'il faudra patiemment lire quand même entre les lignes. Parce que, pour une fois dans cette trilogie, Lin Kunwu peut-être quitter son rôle de simple témoin de sa vie et de la Chine, mais sans plus, il refuse de prendre position pour dire s'il a vraiment fait quelque chose de bien ou de mal. Il va juste dire la vérité, qu'il n'y était pas, et malgré une presse foisonnante, l'information restait bien contrôlée par le parti. Et après, il ne va pas juger justement ceux qui y ont participé. Mais on le sentait déjà dans les deux premiers tomes qu'il racontait des choses qui se savent, car elles ont été vécues par une population entière, mais qu'on se refuse à évoquer. À la fois parce qu'elles ne correspondent pas à l'histoire officielle qu'aimerait écrire le parti, mais aussi par un besoin de pudeur. Et puis sa conclusion, l'histoire de son voyage en France, un réel pèlerinage par un membre sincère du Parti communiste, encore, car il va visiter les lieux et rares monuments consacrés à la Commune de Paris. et aussi le festival de la bande dessinée Angoulême, qu'il raconte être un choc aussi énorme que ce quand il a appris tardivement que l'homme avait marché sur la Lune. Un témoignage sincère quand on voit dans les planches de la BD la fidélité avec laquelle il reproduit les linéaires d'albums franco-belges. On voit bien justement tous les albums et il s'amuse à caricaturer des couvertures de Giacomo C. On sent vraiment que là il s'est pris un choc et il a découvert la potentialité de la bande dessinée. À la fin de son histoire, la Chine communiste fête donc les 60 ans dans la liesse des Jeux Olympiques et on arrive à la fin de cette trilogie qui nous a fait découvrir un univers de vie, l'histoire de trois générations. Cette Chine qui court pour rattraper en 25 ans plus d'un siècle de retard, prenant cette année la place du deuxième puissance économique mondiale. Une vie chinoise, le temps de l'argent, c'est le troisième et dernier tome de cette histoire de Lin Kunwu qu'il autodessine, co-scénarisé par Pascal Autier sur la collection Made in chez Kana. Et 22 minutes, c'est le supplément week-end sur Radio Éphémère. Et on va continuer sortie bande dessinée avec quelque chose un petit peu plus étrange. Bar Zoon Circus, le tome 1 s'appelle Le jour de la citrouille. C'est scénarisé par Jean-Michel Darlot et dessiné par Johan Pilet. Et c'est dans la collection Très étrange chez Glénat. Ah, faut dire que les États-Unis, ce sont un continent à eux tout seuls. Un grand mélange de différentes populations, rencontre entre les cultures européennes, sur les traces des Amérindiens, les traces, les cendres, allez. C'est un creuset de folklore potentiel assez conséquent. Que se passe-t-il donc si on crée de nouveaux monstres? Des ogres modernisés, des sorcières industrielles et autres bizarreries. 1931, on est dans la Grande Dépression. Les ouvriers sont jetés à la rue suite à la fermeture de pratiquement toutes les usines. Tandis que les campagnes sont dévastées après une sécheresse biblique. Le FBI, qui se fait une réputation en chassant les contrefacteurs d'alcool, mais n'a pas encore de placard à balai consacré aux affaires non classées. Pour les affaires louches, c'est donc un groupe d'agents gouvernementaux très spéciaux qui résolvent les affaires étranges, les X-Files. Une troupe de cirque itinérante. Et cette petite troupe bigarrée est envoyée en Alabama sous couverture d'une tournée dans les petites villes et elle se voit confier la mission de résoudre de mystérieuses disparitions d'enfants. Alors que se passe-t-il à Tempérance, capitale de la citrouille, pour que l'on n'accepte aucun étranger ou alors comme cible à fusil? Et surtout, pourquoi la ville qui prépare les festivités du jour de la citrouille tienne absolument à fêter ça à huis clos? Est-ce seulement de la méfiance paysanne ou une crainte que quelque chose tapit dans les marais environnants? L'idée est très originale, franchement bien exploitée, et sans tomber dans le fantastique sérieux de Capricorne. Bar Zoon Circus laisse une place à l'humour et au branquignolesque. Bah, Zone Circus nous emmène dans des enquêtes pour Forains en marge, mélangeant des références lynchiennes et bien évidemment aux films d'horreur des années 30. La série est franchement agréable à lire dans le sens de divertissant, avec une galerie de personnages dignes des monstres de foire. Barzone Circus, le premier tome s'appelle Le jour de la citrouille. C'est dans l'excellente collection ex-éditeur très étrange, c'est chez Glénat, sur un scénario de Jean-Michel Darlot et dessiné par Joanne Pilet. Du sport, on enchaîne de suite avec le comics en prenant le risque de se faire couper par la pub. On la passe dès maintenant. Ah, excuse-moi.
Non, la pub là.
Ok.
Parmi les 1000 suggestions faites chaque année dans cette usine, certaines sont valables, d'autres rejetées. Mais chaque ouvrier a la satisfaction d'exprimer son opinion. Qui sait ? Un jour, une suggestion permettra peut-être de résoudre cette éternelle question. Je suggère qu'on mette le contremaître à la porte.
Mémoire industrielle. Une exposition de graffiti du 21 février au 18 mars 1964. Le vernissage aura lieu le 24 février à 18h30 au Centre culturel des Mazades à Toulouse. En compagnie des DJ No Breakfast et Frank Flimflam de Radio FMR. Avec Dark, D'Esprit, Keller, Mycose, Spasme, Spot, Exeru. Mémoire industrielle au Centre culturel des Mazades à Toulouse. Une exposition de graffiti.
Aujourd'hui, nous allons aborder la question du travail. Depuis les années 80, on ne cesse de prédire la fin du travail. L'humanité était devenue si productive que les sociologues s'attendaient tous à voir le temps de travail diminuer jusqu'à disparaître. Pourquoi nous retrouvons-nous dans la situation inverse, à devoir travailler plus pour gagner plus ?
Hey man, it's gone. I'm afraid to go out. It's gonna take all night. Good boys, gotta be good boys. Reliable, positive attitude. It's very important, very important.
Du sport. Est-ce que j'ai cru voir passer des super andouilles en cap, drogués jusqu'au truc à la machin truc.
Ouais, mais pas tout de suite. D'abord, on va.
Ah, mais tu me casses l'intro.
Ah non.
J'étais heureux d'être tombé sur ce morceau. Allez, vas-y.
Non, non, d'abord, on va parler des normaux, on va dire, hein, de ceux qui sont plus ou moins...
Les mainstream.
Ouais, voilà, c'est ça, mainstream. Ouais, quoique, toujours encore réservé à un lectorat averti, hein, c'est-à-dire que c'est pas vraiment pour les petits-enfants. Et ben, c'est une nouveauté, en fait, hein, et c'est purement français, de toute façon, c'est sorti chez Panini, bien sûr, c'est ce qu'on trouve en kiosque, et c'est une nouvelle déclinaison de... cet ensemble de revues qu'on a. On a bien sûr Spider-Man côté Marvel, on a bien sûr Batman côté DC, mais on a également des revues qui regroupent plusieurs équipes de super-héros ou plusieurs super-héros, hein, pour faire une revue à peu près complète, vu que ce sont généralement des mensuels. On avait déjà Marvel Heroes qui était sorti il y a à peu près 4 ans ou 5 ans, me semble-t-il. Marvel Icons qui était un petit peu plus ancien, on va dire. Et là, bien, voilà apparaître une nouvelle déclinaison qui s'appelle Marvel Stars. Et ce n'est pas complètement innocent, hein, c'est pas simplement...
En tout cas pour... franchement, la couverture, elle est nickel. Par contre, sur la graphie du titre, il y a encore des leçons à prendre.
Ouais, mais enfin, non, c'est parce qu'ils ont pris la même, plus ou moins la même info que pour les autres titres. C'est pour ça, hein, c'est pour qu'il y ait une certaine unicité, on va dire, tout simplement. Alors, ce qu'il y a, c'est que bon, on va retrouver bien sûr les histoires, la suite des histoires auxquelles on était habitués et qui étaient diffusées dans les autres mensuels, à savoir soit dans les Icon, soit dans le Marvel Heroes, mais on redistribue un petit peu les cartes. Et il faut dire que c'est un petit peu une nouvelle ère, hein, après l'invasion des Skrulls, après le règne sombre de Mr. Osborn à la tête du Hammer, et après la fin de l'état de siège, une nouvelle ère, on va dire, plus ou moins commence dans l'univers Marvel, et bien on décide de faire un petit peu peau neuve, et on décide de l'appeler l'âge héroïque, l'âge des héros, The Heroic Age, donc, qui chapeaute l'ensemble des titres dont j'ai parlé juste avant, c'est-à-dire non seulement Marvel Stars que j'ai sous la main, mais également Marvel Heroes et Marvel Icons. Voilà, j'y suis arrivé. Donc c'est le premier numéro, hein, ça, c'est pas énormément cher, en plus un 4,60 et pour l'intro, mais c'est également vrai pour les autres, d'ailleurs pour le Heroes et pour le Icons, à l'occasion de cette de ce reboot, on va dire, hein, de l'univers Marvel, The Heroic Age of Marvel, eh bien dans chaque exemplaire que vous achetez de Star, de Heroes ou de Icon, vous avez un original en version originale, hein, qui vous est offert avec, et généralement c'est une histoire assez marquante dans l'univers Marvel. Là c'est la mort du Capitaine Stacy, The Death of Captain Stacy, c'est-à-dire le papa de Gwen, bien sûr, un Spider-Man qui était sorti au départ en 1970, puis qui avait été ressorti en l'an 2000, scénario de Stan Lee, dessin de John Romita et ancrage de Bob Kane, à moins que ce soit l'inverse au niveau des dessinateurs. Voilà, tout ça, ça vous est offert, donc ça vous est offert, vous l'achetez en même temps, donc ce Spider-Man spécial, en même temps que le Marvel Star, non, c'est le numéro 1. Et à l'occasion d'ailleurs de ce reboot des éditions Marvel, il faut savoir que la numérotation repart du numéro 1 également pour le Marvel Heroes et pour le Marvel Icons. Alors je sais que les collectionneurs, ils vont peut-être un petit peu râler, et ils vont certainement avoir raison de râler, parce que bon, on commence une collection, on se dit tiens, je prends le numéro 1, et ensuite comme ça, au fur et à mesure, comme ça, ça me fait des histoires complètes, le fait d'avoir tous les numéros, et au bout d'un certain temps, clac, hop, on te remet le numéro 1, c'est-à-dire on te fait un reboot, tu repars du numéro 1. Alors bon, c'est un petit peu débile, quoi, je pense, mais bon, ok, hein, faut croire que c'est uniquement sur le marché français, hein, d'ailleurs, hein, il faut le préciser, hein, c'est uniquement pour les éditions Panini sur le marché français, donc les trois enseignes qui redémarrent au numéro 0, enfin les deux enseignes redémarrent au numéro 1, et Marvel Star démarre donc également au numéro 1, ça c'est un petit peu plus logique.
Bah tu sais, c'est un peu, je sais pas, comme par exemple MTV qui n'annonce pas qu'ils fêtent leurs 30 ans, c'est parce que s'ils disaient qu'ils avaient 30 ans, les jeunes ils regarderaient plus. Donc il faut revenir à un chiffre un petit peu plus jeune. Voilà.
Bon, on passe un peu de musique et après on parle de comics un peu plus burné.
Non, je pense qu'on va, quand il va maintenant, on fera la coupure après.
Ah ouais, mais bon, parce que j'ai pas pris mon t'as pas préparé le morceau et tout, quoi, pour faire la voix burnée et tout le bordel, quoi, comme d'habitude. Alors, je vais
non,
pas
mais,
vous
non,
faire.
Non, 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 mais attends, si tu veux. Si non, tu veux non, 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 mais attends, tu veux la voix burnée, ça tombe bien, là, je l'ai remis. Ouais. Hop, vas-y.
Non, 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 parce que je vais pas vous faire le quatrième de couverture, comme d'habitude, dans un monde où des super-héros sillonnent le ciel, c'est toujours le même texte, vous commencez à en avoir l'habitude. C'est le numéro 9 de The Boys qui s'appelle Question de survie. Mais ce qui est plus intéressant, eh ben, c'est carrément. Ben, Qui écrit l'auteur de la page d'introduction, quoi. C'est, là, c'est assez rigolo. Alors, je vous lis les premières feuilles parce que ça vaut vraiment le coup. Putain, j'adore The Boys. C'est vrai, connard. J'ai dit putain. Et ensuite, j'ai dit connard. Parce qu'on peut dire ça et s'en tirer, mais à deux conditions seulement. Être britannique ou écrire l'introduction d'un truc de Garth Ennis. Pas de bol pour moi, je ne suis pas britannique. Ce qui nous laisse face à Monsieur Ennis, qui est, à mon humble avis, l'un des meilleurs scénaristes qui soit. J'en rajoute, vous dites, j'en fais des caisses, je lui lèche le fondement sans vergogne. Allez vous faire foutre, tous, parce que vous êtes en train de lire ce bouquin et que vous connaissez déjà largement l'histoire du petit Yugi et de sa broyeuse bande de mecs et de la fille avec lesquels il traîne. Un groupe qui a une furieuse tendance à porter des impairs noirs et à infliger d'horribles souffrances à ses ennemis, ennemis qui se trouvent être de foutus super-héros. Voilà, ça change un petit peu quoi de l'intro traditionnelle. Il dit exactement la même chose, mais il faut savoir que le mec qui écrit ça n'est autre que Monsieur Damon Lindelof, que tu connais certainement, puisque c'est le coproducteur avec un certain J.J. Abrams de toutes D'accord, les sorties okay. de J.J. Abrams.
Ok.
D'accord. Ok. Bon, voilà. Alors, dans ce nouveau numéro, question de survie. Alors, on a intéressé dans le précédent opus Hérogasme,
qui était très 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 marrant.
Qui était très très marrant.
Puisqu'on parlait justement des reboots et tout ça.
Qui était assez marrant, mais en fait, qui recyclait toujours. Bon, depuis le départ, hein, c'est-à-dire depuis le numéro 1, c'est toujours The Boys. Cette bande de mecs, enfin de mecs, cette bande qui est chargée de faire plus ou moins régner l'ordre en ce qui concerne les exactions des super-héros. Et c'est toujours dans le même sens, c'est à savoir c'est The Boys qui vont chercher une cible et qui vont atteindre leur cible et ok, passé, c'est bon, il n'y a plus rien à voir. Et dans ce numéro, question survie, eh bien, c'est l'inverse qui arrive. C'est-à-dire que là, eh bien, ce sont les différents groupes de super-héros qui se disent, bon, bien entendu, hein, qui sont un petit peu noyautés, on va dire, hein, par les instances suprêmes, qui cherchent toujours, ben ça, si vous connaissez The Boys, vous êtes certainement un petit peu au courant, à prendre le contrôle des États-Unis d'Amérique, bien sûr, et de pouvoir balancer plein de bons produits vote américains. Ça, c'est, ça fait partie un petit peu du trip, de toute façon. Et là, eh bien, ce sont les super-héros qui vont essayer une furieuse contre-attaque contre The Boys. Et on va apprendre plus ou moins, qu'en fait, le contrat ne vise pas tellement l'équipe, mais un seul membre de l'équipe, à savoir celui qui les a réunis, le fameux Billy Butcher. Mais pourquoi ? Et c'est là la question qu'on se pose quand on arrive à la fin de ce 9e tome de The Boys qui s'appelle Question de survie. Bref, comme d'habitude, c'est toujours aussi violent, c'est toujours aussi trash. Là, un petit peu plus que d'habitude parce que ça cartonne bien, il y a des fights pratiquement tout le temps. Donc, il y a même l'un des membres de l'équipe qui n'est prêt d'y laisser la vie. Enfin bon, c'est pas passé loin de toute façon, quoi. De toute façon, ça marche toujours. C'est The Boys, je le rappelle. Donc, c'est sorti chez Panini Comics sous la plume de Garth Ennis pour les scénarios, avec non plus Darryl Robertson, c'est toujours Darryl Robertson hein, qui fait la couverture, mais ce n'est plus lui déjà dans le précédent c'était plus lui qui dessinait, ouais. C'est Carlos Esquera, un mec avec lequel Garth Ennis a également collaboré sur Preacher.
Donc oui, c'est ce qui me semblait, oui. Et surtout que le niveau graphique est pas lamentable, hein. Ça suit la même ligne.
Oui, il n'y a pas de problème, hein. Disons, bon, on n'est pas du tout choqué par la différence de dessin et tout. De ce côté-là, ça roule vraiment très très bien. Bon, encore, il n'y a pas de problème, hein. Ça continue de fonctionner à fond les manettes et tout. Et avec un petit cliffhanger comme ça, là, sur la fin, là, qui est pas désagréable. The Boys, c'est de la balle, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de souci. Et du coup, hop, j'étais calé, je dis une bêtise. puisque pour le coup, ben, c'est un peu d'actu. Ça fait que 4 ans que je réserve ce disque. The Herbalizer featuring Philippe Catherine. Serge.
Thank you.
est dans les volutes des paradis artificiels. Serge Gainsbourg, ça fait 20 ans qu'il nous a quittés. Et Philippe Catherine avait fait pour les 15 ans donc ce morceau qui est à la fin d'un album de The Herbalizer. C'est l'album Take London, ce morceau Serge. Je peux vous dire que j'étais vraiment très ému d'avoir découvert. Et le plus drôle, c'est que après, Philippe Catherine a interprété Boris Vian dans le film qui a été césarisé hier, que on ne peut que recommander sur Gainsbourg, Vie héroïque, dont du sport. Tu vas parler puisque tu m'as dit que tu allais faire un rocker célèbre mort, sa biographie.
Ouais, ouais. D'ailleurs, tu sais que c'est Boris Vian qui a écrit le premier morceau rock'n'roll en français.
Qui a traduit.
Ce sont des paroles originales. Après, bon, bah, la musique, c'est clair. C'est pas une musique originale, mais ça, on le savait depuis le départ, de toute façon.
Enfin, bon.
Allez, bouquin à présent avec ce livre.
Donc, Gainsbourg.
Non, pas du tout.
Ah bon ?
Non, pas du tout. Qui est sorti il y a quand même un certain nombre d'années, hein, dans sa version française, hein, je tiens à le signaler. Parce que la version originale est sortie en 1994 et la version française en 2007. 2007, bah ouais, c'était à l'occasion, me semble-t-il, du 30e anniversaire de sa mort, déjà, à Elvis Presley. 2007.
Ah ouais, non, parce que je me disais 30 ans, Gainsbourg,
soit. Non, pas du tout. Il s'agit d'Elvis Presley, Last Train to Memphis, écrit par Peter Guralnick et sorti en édition française donc en 2007 chez le Castor Astral. C'est d'ailleurs un bouquin en deux parties. Première partie, le temps de l'innocence qui va de sa naissance 1935 jusqu'à 1958, à savoir quand il arrive à l'armée, quand il fait son service en Allemagne. Et donc, eh bien, Peter Guralnick, qu'on connaît déjà, surtout pour son bouquin qui ne somme que j'estime que n'importe qui devrait avoir lu avant de s'attaquer un petit peu à ce que c'est la soul music. Ce bouquin qui s'appelle Sweet Soul Music, dans lequel il fait des portraits d'un nombre assez incroyable des grands de la soul music et du rhythm and blues, mais également de gens qui sont un petit peu plus sous-estimés, on va dire, tels que Solomon Burke, qui est mort il n'y a pas longtemps, et qu'il estime plus que des gens comme Jeff Brown ou Ray Charles, des gens comme ça. Enfin bon, bref, c'est un avis personnel. Revenons donc à ce bouquin, Last Train to Memphis, écrit par Peter Guralnick, et des bios d'Elvis, il y en a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes. Je crois que c'est les bouquins de bios qui se vendent le plus et qui ont été le plus écrits.
Ah bon, c'est pas la Bible ?
Non. Je crois qu'il y a les Beatles qui sont devant, où il y a eu le plus de bouquins écrits sur les Beatles que sur Elvis. Mais enfin, Elvis, c'est juste derrière, quoi. Et bon, là, on se dit encore une énième biographie d'Elvis et tout, alors qu'il y en a déjà eu des pas mauvaises en plus, hein, des plus anciennes, mais là, on se dit, bon, ça vaut quand même le coup, parce que Guralnick, c'est pas n'importe qui, quand même. Et Guralnick prend le parti de, en recoupant, bien entendu, toutes les informations qu'il peut avoir de toutes les sources qu'il a pu, et elles ont dû être nombreuses, hein, pour écrire ce bouquin, et il nous propose carrément, de se replonger dans la vie pratiquement quotidienne d'Elvis depuis le jour de sa naissance et jusqu'à son ascension. Et c'est pratiquement au jour le jour, dans la vie de tous les jours, hein, qu'on va suivre Elvis, qu'on va suivre un petit peu toute sa...
Ça doit être laborieux, toutes les leçons de guitare.
Alors, non, justement, quoi. C'est que, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Mais disons, si tu veux, on est vraiment plongé dans le petit quotidien d'un jeune garçon qui va s'éveiller, qui est fils unique, qui a perdu son frère jumeau à la naissance, on le sait, hein, ce fameux Jesse Garon. On va grandir avec lui, avec sa famille, bien sûr. Alors, on apprend qui est sa famille, son environnement familial, ses fréquents déménagements, la dèche. La non-acceptation à l'école, une jeunesse tout à fait normale d'adolescent et de jeune américain, et l'appréhension de la musique et ses premiers contacts avec la musique. Et tout ça est décrit de manière, on va dire, pas impersonnelle, mais assez documentaire. Hein. Il n'y a pas d'envolée lyrique pour exprimer des passages absolument monstrueux d'Elvis et des trucs comme ça. Et on apprend comment le personnage se monte, sa rencontre avec Sam Phillips des Studio Sun, ses premiers enregistrements, sa rencontre avec le colonel Parker, ses premières tournées, la façon dont il tournait, surtout dans le sud au départ, et la célébrité naissante, et la façon dont on construit une star. Et là, on apprend vraiment pas mal de choses en ce qui concerne la construction d'une star. Bien entendu, en 2011, on sait comment ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais là, on se dit, tiens, c'est bizarre, ce Colonel Parker, cette espèce de forain à moitié mythomane qui a réussi, et qui était déjà un promoteur avant, hein, de countrymen relativement connus, Hank Snow entre autres, et bien d'autres avant. Mais qui a trouvé le truc et qui a réussi, grâce à son agilité intellectuelle, eh bien, à trouver comment vendre un produit du showbiz. Et là, il a fait la totale, on peut dire, parce que il a réussi à vendre Elvis comme personne ne l'avait fait avant lui. Il y avait déjà eu de grosses stars nationales, internationales aux États-Unis, telles que Sinatra, telles que Bing Crosby, telles que Al Jolson, qui faisait également chavirer les foules, qui faisait également mouiller les petites culottes des jeunes filles. Mais pas à ce point-là, surtout parce que y avait également une certaine connotation sexuelle, libération sexuelle, on était vers la deuxième partie des années 50, qui n'était pas innocente non plus, et qui était relativement bien entretenu par Elvis absolument pas défendu par le colonel Parker. Il y avait cette espèce d'ambivalence entre les deux personnages, mais chacun s'occupait de son côté de son business, c'est-à-dire le Parker c'était le business, et Elvis c'était la musique et plus tard le cinéma. On apprend dans cette première partie quels sont les débuts d'Elvis au cinéma, comment ça se passe et tout, et on en apprend également aussi beaucoup au sujet d'Elvis et de ses nombreuses conquêtes féminines, comment ça se passait, qu'est-ce qu'il y avait, on pénétrait même pratiquement dans la chambre en compagnie d'Elvis et de la jeune fille pour savoir ce qui s'y passait, parce qu'il y a quand même eu pas mal de témoignages, on va dire, vu le nombre de jeunes filles qu'Elvis a pu fréquenter, hein, officielles ou non officielles d'ailleurs. Et c'est là que c'est vraiment très intéressant, parce que il n'y a pas vraiment de parti pris dans le bouquin, hein, c'est-à-dire que on sent bien quand même que Guralnik, à l'instar de l'ensemble de la communauté américaine de critiques musicaux, considère Elvis quand même comme un déclencheur pour beaucoup de gens de la musique, hein, qu'ils soient critiques, qu'ils soient eux-mêmes devenus musiciens par la suite, hein, mais il ne l'encense pas, hein, il le décrit plutôt comme un type relativement pâteau, qui n'a pas une intelligence hors norme, qui a un petit sens avisé en ce qui concerne la musique, en ce qui concerne le son. Il déclare, Elvis, oui, j'écoute une chanson une fois et après je peux te rechanter la chanson et les paroles et tout, j'ai retenu les paroles. Il a cette facilité naturelle, d'accord, mais c'est pas un foudre de guerre non plus. Il prend des fois des mauvaises décisions, il se laisse mener par le bout du nez par le colonel Parker, il ferme les yeux sur des petites embrouilles quand ça l'arrange ou quand il n'a pas envie de voir. Bref, il est décrit comme un type qui, au bout d'un moment, se fait dépasser par son succès, ce succès qu'il a recherché quand même au départ, hein. Et il est là et il dit, ok, j'aimerais bien devenir une vedette, chanter, jouer de la guitare et puis basta. Mais pas à ce point-là, un succès aussi subi et surtout de la façon dont ça se passe, avec des émeutes lors de concerts, des petits trucs comme ça, les flics et tout. Je te parlais des Stones il n'y a pas si longtemps que ça, les émeutes dans les années 70-60. Avec Elvis déjà, ça provoquait des émeutes, il fallait faire venir les flics, c'était déjà assez monstrueux pour l'époque.
L'histoire veut que l'armée ait regretté d'avoir eu Elvis dans ses rangs, vu les émeutes qu'il y avait dans les centres de recrutement après.
Alors non, parce que le livre s'arrête à l'incorporation. C'est-à-dire que il nous raconte les premières semaines, le livre s'arrête en fait à la fin, quand la mère d'Elvis, Gladys, meurt. Et donc ça, c'est un événement qui est marquant. Et cet événement arrive alors que Elvis a fait ses classes aux États-Unis et est arrivé en Allemagne. Donc doit être rapatrié pour pouvoir faire les obsèques de sa mère et tout le bordel. Et là, la première partie, donc le temps d'innocence, s'arrête. Mais Guralnik nous explique bien comment l'armée s'est démerdée pour faire incorporer Elvis, alors qu'il aurait pu aisément passer la conscription et dire
d'accord,
ok.
Je croyais que c'était un coup de pub justement du colonel.
Non, pas du tout.
Ah, parce que c'est l'armée qui a vraiment.
Plusieurs fois dans le bouquin, c'est cité. Mais pourquoi vous feriez partir un garçon comme Elvis Presley? Et puis venant de la bouche de plusieurs personnes, pourquoi vous feriez partir un garçon comme Elvis Presley passait pendant un an, voire 18 mois à l'armée en Allemagne, alors que là, il nous rapporte 10 millions de dollars en impôts nets par an, quoi. Tu vois, alors donc, c'est des petits raisonnements comme ça qui disent, bon, bah, ok, bon, il y a quand même une partie politique assez fine qui est jouée, hein, pour essayer de se choper le Lascar Ellis, qui est déjà un petit peu plus humanisé, vu qu'il a déjà tourné dans deux films et vu qu'il est déjà présenté plus comme un petit garçon qui a été policier, qui
qui n'est plus... comparaison des noirs, là, dont d'ailleurs il reprend les chansons, hein, qui eux étaient déjà... n'avaient pas droit de citer dans la moitié des États à la radio.
Oui, oui, non, mais bon, ça, c'est pas le problème, entre parenthèses, hein, bien sûr, hein, parce que c'était un état de fait de toute façon. Hein, mais il faut aussi dire que Elvis, au départ, trouve un petit peu le sens, le goût de la musique, dans le fait d'aller à l'église et de pouvoir chanter ces fameux gospel et tout. D'ailleurs, ses parents étaient fans de quartets vocaux, c'est-à-dire qu'ils chantaient des gospels uniquement de la musique religieuse, pas de musique profane, hein, d'ailleurs. Elvis a baigné également dans cette musique-là. Et Elvis, dès qu'il avait un moment de libre, se foutait un piano, et chantait un petit gospel, hop, vas-y, tranquille, parce que c'était la musique qui l'inspirait le plus. Mais il faut aussi dire que ça nous raconte bien dans le bouquin comment Elvis arrive avec ses chansons. Après, comment est-ce qu'on choisit les chansons pour Elvis ? Comment ça se fait qu'Elvis ait des titres qui soient co-signés d'Elvis et d'autres gens et tout ? Et on nous explique bien comment, quels sont les mécanismes qui ont permis justement à Elvis d'être co-créateur donc de chansons qu'il n'a jamais écrites et qu'il n'a jamais composées. Mais bon, c'était un petit peu logique et même les créateurs originaux sont d'accord avec cette façon de voir parce que c'est comme ça que ça marchait à l'époque, il n'y avait rien à dire de toute façon. Et là, on apprend également quel est le processus créatif, comment ils sont arrivés à toutes ces chansons de la première période et tout, qui sont le meilleur Elvis pour moi et pour pas mal de gens d'ailleurs. Alors, je le répète, c'est Last Train to Memphis, Memphis d'Elvis, pas d'Elvis Presley, la première partie. Le temps de l'innocence de Peter Guralnik. Et Peter Guralnik qui a eu un de ses bouquins qui vient de sortir cet été, l'été dernier, et qui s'appelle Lost Highway, sur les routes du rockabilly, du blues et de la country music. Un livre qui est sorti en 79, je crois, en édition américaine normale, et qui n'est traduit que depuis l'année dernière. C'est, tu vois un petit peu quoi, la littérature rock, à quoi ça sert et tout. Alors dans ce bouquin, c'est assez intéressant parce que y a plusieurs parties qui s'intéressent surtout aux roots, hein, de la musique américaine, les Honky Tonk Heroes, les Hillbilly Boogies, les Honky Tonk Masquerade et les bluesmen. Alors il y a Merle Haggard, James Talley, Otis Spann, Big Joe Turner, Elvis bien sûr, Mickey Gilles, Sleepy LaBeef, de Fort Bailey, Rufus Thomas, ça c'est vraiment les grands anciens. Et surtout, alors c'est la cerise sur le gâteau dans ce bouquin, c'est un épilogue qui s'appelle Sam Phillips parle. Sam Phillips, le mec qui avait le Sun Studio et qui a, on va dire, découvert, qui a vendu Presley et tout. Et là, c'est une de ses interviews, l'interview qu'il fait à Peter Guralnik en 79, il y a pas mal de temps, et dans lequel...
Il avait encore la direction de ce studio
Non, il avait déjà tout vendu au début des années 60. Il avait pris des parts dans les premiers Holiday Inns qui s'étaient créés.
Bonne affaire,
ça
là.
Ça lui a permis justement de pouvoir vivre plus ou moins à l'aise et tout, et de pouvoir continuer à faire ce qu'il a toujours voulu faire. Et là, c'est vachement bien expliqué dans cette interview, à savoir, produire des artistes, essayer de leur faire franchir un cap, essayer de faire qu'ils deviennent célèbres et tout, mais dans une espèce de mixité de musique et tout. C'est ce qu'il a toujours recherché depuis le départ, hein. Lui, il ne voyait pas la couleur black, blanc, machin, truc bidou, il s'en foutait et tout. Lui, ce qui l'importait, c'était le son, c'était la musique, l'unicité de la musique et tout. Et bon, là, c'est vraiment très très intéressant de toute façon de retrouver ce personnage dans Lost Highway, donc de Peter Guralnik, sorti chez Rivage Rouge, donc, et ça c'est tout récent, hein, par contre.
D'accord, donc je le note.
On se met un petit Elvis là,
oui,
quand même.
Oui,
hein,
oui, tout à fait. D'abord, je note ça parce que j'ai laissé tourner donc le disque en question et on va se mettre Good Working Tonight, ce qui me semble tout à fait justifié. Et je rappelle que du sport à 14h vous fait l'histoire des musiques rock and roll, bande de petits inconscients. Rockin' tonight.
see you know I'm a mighty lotty man. I heard the news, there's good rockin' tonight. I say, oh, meet me in a hurry behind the bars. Don't you be afraid that I'll do you no harm. I want you to bring along my rockin' shoes, cause tonight I'm gonna rock away all the blues. I heard the news, there's good rockin' tonight.
De la télé à présent avec des séries, ah ouais, et de l'inédit, ah ouais, et de la bonne qualité, du moins on l'espère, mais par contre, eh bien, le succès fait que, eh bien, d'une petite chaîne comme ça, qui ne gagne pas beaucoup d'argent et qui ne fait pas de folles dépenses et tout, qui réussit à se payer une petite série, somme toute anodine au départ, hein, comme ça, quoi, mais qui se révèle être complètement percutante, haletante, fracassante du début jusqu'à la fin. Et après, ben, on se dit, ah ouais, jackpot, super. Surtout quand cette série, en plus, se voit décerner un Emmy Award aux États-Unis, on se dit, ah ouais, ouais, bingo, facile. Et bah, on achète les saisons suivantes, histoire de remplir ses programmes. Et c'est ce qui arrive à cette série dont je vous ai parlé longuement, longuement, longuement lors de sa diffusion sur Arte, For Bridelsen, The Killing, la saison 2, donc, arrive sur nos écrans la semaine prochaine, mais par contre, ce sera sur TPS Star. Va chercher Hervé.
Ah, peut-être qu'Arte, ils ont réacheté les droits à Canal+, hein, tout simplement. Ce qu'ils font d'ailleurs d'habitude, hein, ils ont ce qu'ils ont fait aussi pour une autre série.
Oui,
de
oui
la
non,
même
mais bon, voilà.
Hein, voilà. C'est ils n'ont pas la première exclusivité.
Non, 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 c'est des cuisines économiques qui se font au détriment quoi du téléspectateur en tout cas. Alors c'est donc la semaine prochaine, mercredi prochain à partir de 20h40, cette saison 2 qui ne fait que 10 épisodes, mais qui promet d'être aussi intense que la première. Première saison qui date quand même de 2007, hein, puisque bon bah c'était Emmy Award de la meilleure fiction, il était obtenu en 2007. Et il faut savoir que sur AMC, la chaîne qui nous a fait The Mad Men, qui nous a fait également Breaking Bad, eh bien ils vont nous proposer en avril la diffusion de la version américaine de The Killing avec Billy Campbell et Michelle Forbes. Donc on va voir ce que ça va donner, hein, mais bon, on verra. Hein, on verra. En tout cas, la version danoise, l'original, hein, The Killing, c'est sur TPS Star mercredi prochain à partir de 20h40. Alors, chez nos amis britons, beaucoup de bonnes séries, bien entendu, et du côté de la franche poilade ou de la déconne, ils savent également faire, ça, il n'y a pas de problème. Hein.
Non, mais ils ont inventé l'humour.
Ouais, ouais, ouais. Et une petite série, là, qui a failli passer inaperçue et qui est programmée sur une chaîne qu'on n'a pas trop l'habitude de regarder pour la qualité de ses programmes intellectuels, c'est MCM. Qui nous propose The Inbetweeners, une série anglaise donc qui a quand même obtenu déjà deux British Comedy Awards, qui raconte l'histoire d'un jeune adolescent, jeune lycéen, qui va devoir changer de quartier et de lycée, donc parce que bon, son statut familial a un petit peu changé, ses parents sont séparés, moins de pognon, et donc du lycée privé super high-tech où il était, il va falloir plutôt à l'école publique et donc se faire de nouveaux potes. Et donc The Inbetweeners raconte donc ses aventures potaches, décalées, on va dire, à la manière anglaise, donc ce qui se passe dans le cerveau et dans les autres parties anatomiques de ces jeunes prépubères, interprétés par James Buckley, Joe Thomas et Simon Byrne, dans le rôle principal. Donc c'est sur MCM tous les soirs à partir de lundi. Du lundi au vendredi, donc The Inbetweeners, dans un format court, à savoir le format 26 minutes. Sinon, en magasin, j'ai également la saison 5 inédite de Dexter qui démarre jeudi prochain sur Canal+ à partir de 20h50. Ah bah ouais, bah et pourquoi pas. Et le retour de cette... c'est pas vraiment une série... Enfin si, après la diffusion du premier épisode, à savoir du pilote, eh bien, vu le succès d'Estime et certainement le taux d'audience, eh bien, TF1 a décidé d'en faire une série. Je vous en avais parlé, hein, prévu, d'ailleurs.
Je m'inquiète.
C'est la loi selon Bartoli. Donc, moi, ce qui m'avait bien botté, hein, c'était l'interprétation de Stéphane Fraisse dans le rôle de ce juge d'instruction un petit peu foutraque qui mène les enquêtes, alors que bon, bah, c'est les flics qui devraient le faire et tout. Il a une assistante un petit peu déjantée qui était intérimaire au départ et tout, et qui est un petit peu punk, on va le dire, hein, interprétée par Alexia Barlier, et d'autres seconds rôles qui se révèlent assez intéressants aussi, tels que Hélène Vincent ou le papa de Simon, Alexandre Astier, dans cette loi de Bartoli qui, bon, moi, le premier épisode m'a bien botté, donc on va voir ce que ça va donner lors de ce second épisode. Ça renouvelle un petit peu le genre, c'est quand même un petit peu plus moderne. Hein. On se rappelle que même les derniers épisodes les plus récents de Julie Lescaut, par exemple, bon, même si... le dialogue, même si le discours est un petit peu modernisé, un petit peu jeunisé, on va dire, bon bah ça reste quand même un petit peu mou du genou et un petit peu vieillot, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi, de toute façon. Alors que là, bien, il y a une différence de rythme, c'est un petit peu plus léger, mais ça reste quand même assez regardable, de toute façon. Donc, la loi selon Bartoli, c'est donc jeudi prochain sur TF1 à 20h45.
N'avale pas la touillette avec ton café. Du sport dans le supplément week-end.
Alors là,
sur FMR.
Alors là, des films pour la semaine à venir, mais des films qui, si le premier avait pas marché, ils auraient pas existé. Tu vois, hein ?
C'est les films qu'il fallait pas, quoi.
Non. C'est-à-dire que bon bah t'en fais un, Star Wars, et puis après le mec il dit oh putain, je vais en faire un deuxième, ça marche et tout, super. Hop, allez, je te fais l'Empire
contre-attaque. Enfin, en même temps, je vois mal faire un Titanic 2. Quoique si, ils ont essayé.
Ouais, non, parce qu'il faut bien savoir quand même que c'est relativement récent dans l'histoire du cinéma. Cette histoire de faire des suites comme ça, quoi. Parce que si tu regardes bien dans l'histoire du cinéma, dans les années 30, 40, 50,
ça,
il
n'y
avait pas de
2. Ouais.
Il n'y avait pas de... Bon, on faisait des remakes.
Peut-être le premier... Enfin, moi, ce qui me semble, bah, si, il y avait la, aux États-Unis, il y a eu la, la planète des singes, et auparavant il y avait peut-être la série des Angéliques.
Oui, oui, mais ça commence là, ça commence à la fin des années 60, la planète des singes et tout, ou la trilogie des jeux du parrain.
Les James Bond dans les années 60, mais ça, c'était
James
une
Bond,
série...
c'est différent, hein, parce que c'est un film à chaque fois, c'est pas une suite vraiment. Hein. Parce que c'est inspiré d'un bouquin aussi, donc d'une série de bouquins. Non, là c'est ok, hein, s'il n'y avait pas le premier, de toute façon, le deuxième, à mon avis, il n'y aurait pas quoi. Mais les autres non plus, de toute façon. Alors, ce soir sur RTL9, fin d'après-midi à 17h05, les chroniques de Riddick de David Towie, que s'il n'y avait pas eu Pitch Black, il n'aurait pas pu faire les chroniques de Riddick qui en fait se passent avant. Mais bon, ça c'est un autre problème, mais ça fait rien. Avec entre autres Judi Dench, bien sûr, hein, et Comfir, bien entendu Vin Diesel. Sur FX ce soir à 21h, Hurlement 3 de Philippe Mora, où ils ont délocalisé les loups-garous en Australie, hein, où ils sont devenus un petit peu plus marsupiaux, quoi, on va dire, hein, que licans. Et on a même après le Hurlement 4 de John Hogue qui là, ils se sont retournés en Angleterre quand même à 22h35.
Ils se sont dit ça, on a fait dans le ridicule, on y revient. Ouais,
c'est sur FX, donc c'est ce soir la soirée Hurlement 3 et 4. Sur Gulli ce soir à 20h35, Les Petits Héros 2 de Henri Char avec Thomas Garner et Cameron Walling, mais enfin c'est pas eux les petits héros, c'est le chien, le chat et je sais plus
et le canari, encore, le poisson rouge.
Ouais, non, je me rappelle pas quoi. Enfin voilà, c'est eux les petits héros. Donc c'est ce soir sur Gulli à 20h35. Demain sur NT1 à 13h35, Bleu d'enfer 2 de Steven Herrick avec Chris Cormack et Laura Vandernoot. C'est peut-être la fille ou la petite sœur de Alexandra. Sur Seifi demain à 18h30, King Kong 2 de John Guillermin avec Peter Elliott et Linda Hamilton. Et sur Ciné Cinéma Frisson demain à 20h40, X-Men 2, bien sûr. Disney Sea Magic vous propose demain à 20h30 Fantasia 2000. Donc il y avait eu le premier dans les années 30.
Attention, parce que le Fantasia 2000 reprend quelques sketchs justement du Fantasia original.
Oui, mais réactualisé avec un autre graphisme.
Et c'est pas sur le succès, puisque le premier a eu un succès quasi nul et le deuxième a été fait par le petit neveu quasiment contre l'avis du reste du board de Disney. Hein. C'était un caprice.
Non, mais c'est...
Après, il est bien,
ouais, ça voilà. C'est clair. Sur Cinéfix demain soir, tard dans le soir, à 1h15 du matin, Candyman 2. Et sur Disney, à 20h25, les Cheetah Girls 2 de Kenny Ortega en 2006 avec Raven, Adrienne Bailon, Sabrina Bryan et Kelly Williams, puisqu'ils sont quatre. Hein. Et je te donne les noms parce que, tu vois, c'est les noms qu'il faut retenir parce que dans 3 ans, 4 ans, qui c'est qui va nous emmerder dans la page people de tous les magazines? C'est elles. Vu qu'elles seront en âge de faire des conneries, de fumer de la drogue, de sortir avec des mecs pas beaux, qui les tapent, qui les tabassent, alors que là, elles sont encore jeunes et tout.
Bien, elles tourneront à Mormon.
Ou alors, elles se marieront. Alors, si vous voulez voir le Cheetah Girls 1, par contre, avant le 2, il n'y a pas de problème, parce qu'il est également diffusé sur W9 lundi prochain à 15h40. Et le 2... également sur W9 le lendemain, mardi, donc à 15h35. Comme ça, ça vous fait les deux tranquilles. Et vous savez de quoi il en retourne. Lundi sur France 3 à 15h, le retour des 7 de Burt Kennedy. Après les 7 mercenaires, il fallait faire le retour des 7 avec... Il n'y a plus que Yul Brynner dans la bande, hein, c'est sûr, parce qu'il y en a d'autres qui se sont fait dégommer dans le premier. Il y en a un qui n'a pas voulu revenir parce qu'il trouvait que Yul Brynner, c'était un gros con. Devinez de qui je parle. Et on se retrouve avec un petit western sympathique, sans plus. Yul Brynner qui cabotine un petit peu, mais on aime bien. Et également Julian Mateos et Elisa Montes.
C'est ça où tu fais le robot dans un western qui joue un cow-boy.
Voilà. Sur TPS Star lundi à 20h40, Desperado 2 de Roberto Rodriguez. Sur NRJ 12, alors là, il y a Soirée Requin avec à 20h35 Les Dents de la Mer 2 de Janos Vark. Il y avait encore Roy Scheider dans celui-là et Lohan Gary.
Je croyais qu'on parlait de Baudecroux.
Hein?
Le patron de NRJ, pardon.
Non. À 22h40, toujours sur NRJ, Les Dents de la Mer 3. De Joe Alves avec Dennis Quaid,
le retour du fils et de la maman.
Simon McCorkindale Manimal et Lou oh, Gossett oui. Junior.
Avec le même maquettiste pour et... les animaux, il a pas eu de bol.
Ouais, ouais, bah, il est un petit peu foutraque celui-là, mais enfin bon, il sait se regarder quand même. C'est le 4 qui est très trash, quoi. À 0h25, Shark Attack. Ah oui, là, ça fait du bien quand même. Le Mizurowski avec Casper Van Dien et Ernie Hudson. Pour rester,
grosse parodie, attention.
Pour rester dans les requins. Sur Ciné Cinéma Frisson, lundi à 20h40, 3 jours à vivre, 2. Un film d'horreur autrichien d'Andreas Prochaska. Comment traduire l'horreur quand t'es dans les montagnes alpines en plein pays autrichien. Oui, ça peut le faire quand même. Avec Sabrina Reuter et Anna Roth. Et à 22h35, Cold Prey 2 de Matt Stenberg en 2008. Ça, c'est sur Ciné Cinéma Frisson lundi. Mardi, sur NT1, Cody Banks, Agent Secret 2. Destination Londres de Kevin Allen avec Frankie Muniz et Anthony Anderson. Et mardi à 20h40 sur Ciné Cinéma Premier, Taxi 3. Mercredi, Canal Plus Cinéma vous propose Les Anges de Boston 2 de Troy Duffy, très récent, 2009, avec Sean Patrick Flannery et Billy Connolly. Alors que Disney Cinemagic, mercredi prochain, vous propose High School Musical 3, les suites des aventures de Zac Efron. Ça te branche pas, ça? Et FX a la bonne idée quand même de nous passer l'original et ensuite le numéro 2. Bah, comme ça, on sait de quoi il en retourne. Mercredi prochain, 21h, Candyman. Et à 22h40, Candyman 2.
Voilà, sachant qu'il faut faire attention parce que High School Musical, il y a eu un film qui a été distribué en France sous le nom de High School Musical 3D, mais en fait c'est le 4e ou le 5e.
Non, ça c'est le 3, mais c'est pas le 3D.
Oui, mais attention, c'est le 3, attention.
Jeudi, TV Braze vous propose à 20h40 L'Arme Fatale 2, c'est celui avec Joe Pesci. Ciné Frisson vous propose.
C'est celui où ils marquent tous, ils sont tous en train de faire manifestation, en train d'écrire, de dire apartheid c'est mal, tous c'est mal orthographié de la même manière. On voit que c'est le même mec qui a fait toutes les pancartes.
Alors sur Ciné Frisson, jeudi prochain 20h40, Hellboy 2. Ok. Sur FX, à 21h, The Eye 2, suivi de 22h35 de The Eye 3.
Le premier était très fort, mais je sais pas ce que valent les deux autres.
Bah, le 2, c'est également
parce
les
mêmes. C'est Oxyde et Neutrino. Oui.
Ouais, c'est Oxyde et Neutrino. Ouais. Non, Oxyde et Dany.
Oxyde et Dany, pardon. Oh putain. Non, mais de toute façon, le premier, il m'avait foutu une claque. Donc, j'ai un peu peur quoi quand tu m'annonces que les deux, trois à la suite.
Le 2, il est également 2. Le 3, je crois pas. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est jeudi prochain sur FX. Soirée The High, mais les suites. Donc. Et sur XXL, il y a également Préférence Anale 5 à minuit. C'est un film brésilien. Vendredi.
On a déjà parlé des Grecs tout à l'heure, ça va avoir des vendredi
emmerdes. Sur FX à 16h10, The High 2, donc encore une fois. Hein, et à 17h40, juste après The High 2, Hurlement 3, donc Retour des loups en Australie. Sur Orange Ciné Happy, vendredi prochain, il y a également Spy Kids 3 à 20h40. Et enfin sur XXL à minuit, Viens baiser ma femme 4. Et ce sera tout pour cette semaine de programme de télé.
Je te demande pas si t'as fait un résumé, t'as pas osé.
Bah si, mais bon.
Voilà, alors je vous explique la situation. Suivant le redatage, il est 13h18 et 17 secondes. On a fait 12 minutes de moins. Ah oui, note, c'est vrai qu'on était on était que deux là, donc c'est un peu normal. Alors, je sais pas comment il fait Carali, mais à chaque fois, il m'envoie le Psychopathe. Je rappelle que Psychopathe, c'est un magazine mensuel. Et je le reçois par la poste le samedi matin, au moment où je pars pour aller au studio pour faire mon émission. Je sais pas comment il fait. À chaque fois, c'est le samedi matin. Et hop, je l'ouvre devant vous. Et c'est le Psychopathe numéro 229 de mars 2011. 4,90€ sans pub dedans à l'intérieur, et c'est consacré aux médecines parallèles, donc sur l'acupuncture, le socialisme, le centrisme, l'imposition des mains, sur les fesses, et tout ça, oui, non mais... Enfin, je sais pas, là je suis en train d'improviser l'hypnose et tout le reste. Et parmi donc les auteurs, il y a Karit Kaza, donc apparemment qui s'incruste bien définitivement dans le journal, Alain Godet, Jacques Rénal, Lancan, Fabien T, Barre et tout le reste, enfin tout Jean-Luc Coudray, Sirou, Pixel Mangeur. Bref, il y a du bon monde. À chaque fois, comme d'habitude, donc c'est arrivé en kiosque et en voulant jeter l'emballage, j'ai envoyé balader mon micro, mais du coup, je peux peut-être lancer le jingle de fin. Du sport, comme Thomas n'est pas là,
oui.
Il va falloir que tu fasses le résumé. Tu sais, pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route, même si... le stream a marché sans problème, la FM aussi, donc... On peut leur expliquer quand même un peu qu'ils ont manqué des trucs.
Ah ouais, vous avez manqué le film, donc Xavier a oublié le nom. Vous avez également oublié un sol qui colle au pied, mais ça concerne que nous en fait, parce que vous n'êtes pas dans le studio.
C'est pas radiophonique. Hein,
vous avez
c'est
également...
pas public le studio. Non,
non, non, non. Et vous avez oublié le jour de la. Vous avez manqué le jour de la citrouille. Rappelle-toi du jour de la citrouille. Ainsi que cette rencontre entre Gainsbourg et Catherine, le porno brésilien. La promo Marvel gratos, plein de films avec des numéros, et une émission sans avoir cité une seule fois No Life, vous avez manqué tout ça.
Enfoiré.
Merci pour le nouveau psychopathe.
Je l'ai envoyé sur la gueule. Nom d'une tournée burlesque, vous avez manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver nos chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, essayer d'être notre ami sur Facebook, on sait jamais. Posez vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplémentweekend.fr. Supplémentweekend.fr. Total, salutations et respect envers nos amis auditeurs qui sont en Tunisie, au Maroc et en Algérie en ce moment, puisque le net s'est un petit peu interrompu. Mais on souhaite quand même qu'ils vont très bien. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz et nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM qui prend la suite à partir de 17h et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, le débrief complet des cérémonies des César, Oscar et autres Gérard. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Ciao, bye bye.
Ouais, la console est rénovée, il n'y a plus ce bruit de merde.